c'était C'est Jérôme, Kiss Me, on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel opus, bye bye, avec le temps des copains.
L'émission des années 60 sur RVE. RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. La confiance n'est plus de mise à Rouen. Environ 500 personnes ont encore manifesté hier et se sont rassemblées samedi après-midi devant le palais de justice de la préfecture de Seine-Maritime pour exprimer leur inquiétude face aux conséquences possibles de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol dans cette ville il y a maintenant un mois. Notre passé sans Lubrizol, notre avenir sans le cancer, ou encore avec Lubrizol on meurt un peu mais pas trop, pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les participants réunis à l'appel d'un collectif unitaire regroupant associations, syndicats et partis politiques. Des élus d'Europe Écologie Les Verts et du PS étaient également présents. Il y a un scandale Lubrizol, ont indiqué notamment des syndicalistes, estimant par ailleurs que le suivi médical proposé par l'État nous semble insuffisant. Un programme caribéen sur les sargasses qui permettra la mise en place d'une plateforme d'information et d'un centre d'alerte a été officiellement constitué hier à l'issue d'une conférence internationale à Pointe-à-Pitre réunissant délégations nationales et organisations régionales des Caraïbes, manifestation à laquelle participait le Premier ministre français Édouard Philippe. Au Liban, c'est la paralysie qui menace. De nouvelles manifestations pour demander cette fois la démission du gouvernement ont contré les efforts de l'armée qui tentait de débloquer les routes du pays du Cèdre au 10e jour de colère. Les barrières et des sit-ins ont stoppé la circulation et là encore, la police anti-émeute a reçu le renfort des soldats qui se sont déployés sur les principaux axes routiers. Les protestataires accusent la classe politique, toute confession confondue, de corruption. LVMH veut s'emparer du joaillier américain Tiffany, un mariage de riche, car le géant du luxe du français Bernard Arnault a fait une offre au début du mois au bijoutier connu pour ses bagues de fiançailles et ses diamants. Ça passe ou ça casse, mais ils seront 59 bateaux sur la ligne de départ au Havre tout à l'heure pour se lancer dans la Transat Jacques Vabre, une traversée de l'Atlantique à la voile en double, 14e édition avec des bateaux volants qui mettront le cap sur Salvador de Bahia au Brésil, une course folle organisée par les cafés Jacques Vabre. Alors qui boira la tasse? Bonne journée.
C'était votre flash info et avant de retrouver Philippe dans quelques instants, eh bien on aura un bref point météo. Il faudra sortir les parapluies aujourd'hui car on aura des maximales qui monteront jusqu'à 13 degrés, pas plus, et pas mal d'averses de prévues pour la journée. À présent, eh bien c'est votre émission Tribune Sport présentée par Philippe et son équipe jusqu'à 11h. Très bonne écoute.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh ben oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette émission du dimanche 27 octobre. Alors, vous avez pu dormir une heure de plus, hein, puisque nous sommes revenus à l'heure d'hiver, vous êtes en pleine forme pour écouter votre émission sportive préférée. Alors ce matin, on devait parler foot avec la section du Perret, et puis bah, on a eu une petite désaffection, c'est pas bien grave, puisque autre invité principal, eh ben c'est un confrère qui n'était pas revenu ici depuis plus de 25 ans, c'est notre ami Philippe Traversant. Bonjour Philippe, ravi de te retrouver, on va se tutoyer.
Bonjour Philippe. Ouais. Très très content de te retrouver aussi, ex-copain de balade cycliste avec toi. Hein.
Absolument, voilà. Alors, tu as écrit un bouquin il n'y a pas longtemps.
Oui. C'était pas prévu.
Tu vas venir nous parler de ce bouquin. Bouquin où, naturellement, le sport a une énorme importance.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Si tu veux, je t'explique vite fait pourquoi j'ai fait ce livre. Bah, parce qu'au départ, j'avais écrit ce livre pour. Je suis devenu biographe il y a quelques années. Donc, j'ai voulu faire un livre sur l'histoire de la famille pour mes enfants. Et un éditeur était intéressé, trouvant que mon parcours de vie méritait d'être édité. C'est vraiment un concours de circonstances, c'était pas du tout prévu.
Très bien, donc on remontera le fil de la vie de Philippe Traversant à travers cette émission. On retrouvera aussi notre ami Fabien, hein, puisque c'est le dernier dimanche du mois, donc on va parler golf. Fabien nous fera un petit topo sur l'Open de France de golf qui s'est déroulé la semaine dernière à Saint-Quentin en Yvelines et parlera aussi d'une opération qui se déroulera mercredi au Haras de Jardy. Et puis Philippe, je prévois une petite surprise tout à l'heure. J'en dis pas plus.
J'ai une belle surprise, merci. Ouais,
je prévois une petite surprise. Alors, ce livre, d'abord, comment il est venu, donc, par hasard, hein.
Bah, tu sais, j'ai fait beaucoup sur Facebook, hein, car j'ai une page professionnelle en tant que biographe sur Facebook, et j'y suis quand même tous les jours pour alimenter cette page, et puis pour donner des critiques de cinéma. Enfin, tu sais, j'ai continué à faire du journalisme. Hein. On n'arrête jamais.
Parce que officiellement, bon, c'est la retraite.
La retraite depuis le 1er septembre.
Quand on est journaliste, on est déjà en retraite.
Depuis le 1er septembre, officiellement. Ouais. Mais j'ai toujours continué à écrire, à faire des portraits. Et par hasard, une maison d'édition cherchait des manuscrits. J'ai envoyé le mien, mais vraiment à tout hasard. Et un mois après, après lecture du comité de lecture, ils m'ont dit on prend votre manuscrit. Du coup, j'ai dû changer pas mal de choses, changer des prénoms. Parce qu'au départ, je ne pensais pas du tout que ça serait édité et lu par des gens, par pas mal de gens, en fait. Hein, en dehors de ma famille.
Oui, il a été facile à faire ce bouquin, à écrire.
Tu sais, j'ai commencé il y a 4-5 ans, comme ça, je me suis dit, je ne vais pas oublier des tas de choses, je vais le faire petit à petit, et j'ai mis quand même 5-6 ans à l'écrire, je voulais le terminer pour mes 60 ans, et finalement, il était terminé pour mes 62 ans, tu vois. Je ne me suis pas pressé, mais ça me permettait comme ça d'en rajouter, et de recueillir des éléments auprès de ma mère, qui avait quand même beaucoup d'informations sur les aïeux, que je n'avais pas, moi.
Oui, bien sûr. Et donc, il est sorti quand ?
Il est sorti il y a 3 mois.
Trois mois, d'accord, ok. Alors, il y a des séances de dédicaces un peu partout. Je crois savoir que ça fonctionne remarquablement bien pour l'instant.
Bah, tu sais, moi seul, j'en ai déjà vendu quasiment une centaine. Donc, je vais faire des salons. Je vais faire celui de Rambouillet, bien sûr. Je vais faire la grande balderie chaîne qui est communautaire organisée par les Arméniens au Plessis Robinson le 16 novembre. Rambouillet, ça sera le 17 novembre. Là, il y aura beaucoup d'auteurs à Rambouillet, mais à chaîne aussi, tous qui ont un lien avec l'Arménie. Parce que moi, je suis d'origine arménienne, comme tu le sais. Donc, il y aura ça et il y aura encore pas mal de choses. Des dédicaces, certainement, à la grande librairie de Chartres, une des plus importantes de France. Je vais sûrement faire des dédicaces là-bas.
Oui, on n'oublie jamais ses origines.
Jamais. En tout cas, non, parce que c'est important quand tu as des origines étrangères. Mes grands-parents ont fui le génocide en Arménie et tu peux pas tellement oublier ça.
Bon, alors j'avais promis une petite surprise. La petite surprise, elle est donc au téléphone. On va le saluer. Ravi de le retrouver à ce micro. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, voilà.
Philippe.
Ouais. Alors justement, Stéphane Dezenclos, Philippe Traversian, ça rappelle forcément des grands et beaux souvenirs.
Stéphane, comment vas-tu ?
Ça va très bien, ça va très bien, Philippe. Écoute, moi, j'étais, j'ai tes nouvelles par l'autre Philippe, et je vois que ça va très bien pour toi. Bah oui, bien sûr, ça rappelle d'énormes souvenirs. C'était il y a 35 ans, pratiquement maintenant.
Une bonne centaine d'années, ouais.
Un peu moins,
parce qu'on a travaillé ensemble dans le journal de Yannick Noah, Télésport, c'était il y a une vingtaine d'années, je crois.
Ouais, et 25 ans, et des nombres, bien sûr, de très 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 bons souvenirs sur la couverture de l'information, notamment autour de Rambouillet.
Bah oui, parce qu'on avait la chance d'être dans un super bon secteur, très porteur au niveau du sport ici, hein.
Ah, tu m'étonnes, c'était surtout si on compare par rapport à maintenant.
Maintenant, je suis revenu après 4 ans en Auvergne et j'ai rien vu. Il n'y a plus de foot, plus de rugby, plus de basket. Donc c'est un peu le désert.
C'est incroyable, quoi. C'est incroyable, ça permet effectivement, je pense que Philippe est particulièrement attentif et bien sûr au courant de ça, l'autre Philippe. Oui. Ça permet effectivement de rappeler qu'à l'époque, on avait un club de basket.
Ah oui, on s'y retrouvait tous les samedis soirs. Hein.
Ouais, les garçons National 3, le foot qui était...
Les filles en National 1B, le foot, le rugby jouait pas mal en 3e division même, je crois.
Ouais, qui montait, qui essayait de monter. Ils avaient été, je sais pas si c'était encore... Enfin bref, il y avait...
La GRS aussi, très bon niveau.
Comment ?
La GRS aussi.
Exactement, le triathlon. Ouais. Rappelle-toi quand il y avait une équipe de triathlon qui était assez forte quand même à Rambouillet. Non, c'était vraiment qu'il y avait une activité sportive de très très haut niveau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Bah, il y a la vie, il y a peut-être des décisions aussi au niveau de la municipalité qui sont autres que.
Et puis on allait beaucoup à 50 ans en Yvelines, qui est pas loin. Et là aussi, ça a disparu le sport de haut niveau.
Tout à fait, il y a encore le golf, mais c'est quasiment tout, je crois. Hein.
Voilà, les VP Poney en voile, le triathlon à très très haut niveau, il y avait beaucoup de choses sur Saint-Quentin.
Ah, exactement. En tout cas, c'est l'occasion souvent d'être ensemble, de partager avec les journalistes locaux, on va dire ça, on se retrouvait tout le temps.
Et oui, bien sûr.
C'était vraiment une
bonne... Puis on avait la chance quand même de toucher au national avec le rugby qui venait à Clairefontaine à l'époque et le football en face.
Ah oui, Clairefontaine, le foot, hein.
Bien sûr, le football, puisqu'on a vu passer les sélectionneurs qui étaient Houillet, Platini, Jacquet, après, mais ça c'était un petit peu plus tard, mais au tout début, avec des joueurs comme Cantona, Papin, qui étaient à l'époque là, qu'on pouvait rencontrer. Non, c'est vrai que c'était.
Et puis moi, j'ai beaucoup suivi les équipes de l'INF, hein. J'allais à tous leurs matchs, moi. Ils étaient en 3e et 4e division, donc j'ai énormément suivi ça aussi. Ça permettait d'avoir du très haut niveau dans la forêt de Rambouillet.
Ouais, exactement. Non, c'est vrai que ça a beaucoup de choses. On fait un peu vieux combattant quand on dit ça, mais c'est vrai que
non, mais bon,
il y a quand même un constat incroyable pour cette région, quoi, c'est sûr.
Oui. Bah.
Et puis Stéphane, fatalement, entre les journalistes, il y avait une certaine complicité. On se refilait certaines infos, quoi.
Et puis on jouait au foot ensemble, surtout.
Oui.
Voilà, exactement. Et on jouait au foot ensemble.
Oui.
Et
oui.
Ça fait plaisir que tu te rappelles de ça, parce que effectivement, à l'époque, on appelait ça l'équipe de foot des Yvelines, des journalistes des Yvelines. Il y avait notamment notre ami Bernard Delas, qui était qu'on était aussi un des piliers.
Oui.
Et on se retrouvait le lundi soir. Moi, je retrouvais des matchs, notamment par Claire Fontaine tout à l'heure.
Mais oui.
On trouve Henri Émile, Gérard Houillet, les cadres techniques de Claire Fontaine.
Et André Merel m'a beaucoup fait souffrir sur l'aile gauche. Hein. J'ai pas pu lui prendre un ballon, André Merel. Hein. Il avait un super niveau. Hein.
Exactement.
Et il y avait aussi également Pascal Angenot, que j'ai revu après parce que j'ai travaillé avec lui au Paris Saint-Germain. Le fait de garder des bons contacts, ça permet aussi de retrouver du boulot derrière. Avec Pascal, j'ai travaillé un an au Paris Saint-Germain. Je faisais tous les matchs à domicile et on présentait le capitaine adverse et l'entraîneur.
Ouais, tout à fait. Moi, j'ai toujours des contacts, bien sûr, avec Pascal, qui est dans le Doubs, là, qui est installé dans le Doubs maintenant, et qui est effectivement resté un très bon copain, qui m'avait passé, premier, qui m'a fait d'ailleurs à l'époque entrer au Nouvel de Versailles, au service des sports, avant de prendre encore d'autres fonctions par la suite. Quoi.
Ça fait
plaisir, quoi. Ça fait très plaisir. Bah, que tu sois revenu sur la région, j'espère qu'on aura l'occasion.
Bien sûr. Je sais que je suis un grand nostalgique, hein.
Ouais,
c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs, hein, tu sais.
Exactement. Et faudrait avec notre ami Philippe, là, qui nous écoute, là, l'autre Philippe, il faudrait qu'on organise ça avec Bernard.
Il n'y a pas de problème.
De Philippe, Bernard et moi, qu'on essaie de faire un truc ensemble.
Ouais, une belle soirée des anciens combattants, c'est ça.
Ouais, exactement.
Ouais. Stéphane, c'est vrai que la presse locale, c'est ce qu'on peut quand même recommander à tout jeune journaliste. C'est une belle école.
Ah bah oui, non mais moi je trouve que c'est même réducteur de dire que c'est une belle école. Alors, c'est sûr que c'est une belle école.
Oui.
T'es encore mieux
que
moi pour savoir.
Bien
parce qu'on voit défiler, toi, des gens que t'as formés, tout ça. Je trouve que c'est une très belle école. Mais même au-delà de ça, c'est presque aussi quelque part l'essence même du métier. Parce qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas la presse locale quand tu vas faire une inauguration, quelque chose comme ça. T'es en contact direct. T'es le premier. T'es à l'origine de l'information, en fait. T'es à l'origine de l'information. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, même avec l'époque, un des postes que je regrette, mais qui m'a le plus plu, c'est ça, quoi. Ce serait travailler dans un journal régional, quoi. Donc, je pense que c'est plus encore qu'à départ. C'est effectivement une très bonne école. Alors après, si on veut faire autre chose, et on en a fait, Dieu sait si on en a fait tous les uns les autres, là, des choses. Mais c'est vrai que c'est même un super...
Mais tu sais, Stéphane, dans mon bouquin, j'ai évoqué tous les mecs qui sont passés par l'éco-républicain et même à Rambouillet, et qui ont tous eu des super carrières au niveau national. Hein. Et j'en ai cité au moins une dizaine, minimum.
Voilà, tout à fait. Mais ça m'étonne pas. Non, mais ça m'étonne pas. Ou même par les nouvelles, ou après dans d'autres choses. Effectivement, après, c'est une question de volonté, de ce qu'on a envie de faire de notre carrière, de ce qu'on a envie de faire de notre vie.
Oui, d'opportunités aussi.
D'opportunités, de rencontres. Puis ça dépend de l'ambition que tu as aussi.
Oui.
Il y en a qui veulent rester au niveau régional, hein, qui n'ont pas tellement l'envie d'aller travailler sur Paris ou ailleurs.
Voilà, exactement. Mais moi, pour ce qui me concerne, et je pense Philippe, c'est peut-être pareil.
Oui.
Moi, il m'est arrivé de faire effectivement sortir, d'aller ailleurs, de faire plein de choses, puis après, quand tu reviens à un certain âge, tu regardes un peu en arrière, c'est quelque chose qui peut aussi t'attirer de nouveau, en tout cas te plaire de nouveau, et sur lequel tu portes un regard tout à fait hyper positif, quoi.
Bien sûr. Ouais, et puis cette proximité, c'est quand même important, Stéphane.
Ouais, tout à fait. Ah bah,
parce que sincèrement, maintenant, hein, sur le plan national, international, aujourd'hui, il y a beaucoup de barrières quand même, hein.
Non, c'est sûr.
Bah, c'est vrai qu'on allait à Claire Fontaine sans aucun problème.
Oui,
hein.
Oui.
Maintenant, je pense que ça doit être difficile de rentrer pour suivre un match de l'équipe de France à l'entraînement. Hein.
On rentre, mais il faut parler devant le panneau, quoi. C'est un. Ouais.
Exactement, mais c'est ce que je te disais. Et c'est toi, t'es en presse locale, et j'espère qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, t'es toujours à l'origine, à la source de l'information. Donc, de toute façon, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. C'est ça, t'es à l'origine de l'information. Donc, sinon, t'as pas tous ces filtres qu'on voit avec l'équipe de France, avec voir peut-être plus pour le foot de France que pour le rugby, ça va être pareil pour les sports de haut niveau qu'aujourd'hui, quoi, les sports très très populaires. Mais c'est vrai que t'es directement, et puis c'est pareil, hein, quand t'es journaliste, hein, Philippe, je pense quand tu fais faire un article sur une exposition, la présentation d'un plan d'un nouveau plan d'appurement des sommes, j'en sais rien, de choses comme ça. Tu vas, tu fais ton boulot, t'écoutes, prends les notes, tu fais ton boulot, c'est la même chose que de faire un article sur le budget de l'agriculture, par exemple, des choses comme ça. Finalement, c'est la même chose.
Bien sûr, bah écoute, hey, j'espère que tu viendras au salon des auteurs de Rambouillet le 17 novembre. Il y aura Gérard Larcher, hein, et il y aura le maire de Rambouillet qui a beaucoup apprécié mon livre, et sa femme tient absolument à le lire. Donc tu vois, ça va être super du local, hein.
Voilà, tout à fait. Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que le maire de Rambouillet, c'est Marc Robert.
Ancien joueur de haut niveau, ancien basketteur de haut niveau, et qui s'occupait des sports quand j'y étais. J'ai travaillé avec lui pendant 10 ans, moi.
Quand on y était, qui était. Oui. D'ailleurs, on pourrait, si on était un peu roulé à l'enquillon, lui demanderait, lui, puis il doit bien avoir l'explication de la baisse du niveau du sport à Rambouillet. Quand lui, il était effectivement à notre époque, on parlait tout à l'heure là, des réussites de tous les sports à Rambouillet, c'était le maire adjoint
chargé des sports. Tout à fait, oui.
Donc effectivement, c'est vrai qu'on peut peut-être un petit peu... Non, bah maintenant, comme je dis à Philippe, maintenant, on accueille le Tour de France.
Ouais. C'est ça.
Aujourd'hui, il y a 25 ans, on avait une équipe de basket en National 2, une équipe de foot en régional et de rugby en 3e division. Aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça, mais par contre, on accueille le Tour de France. Je ne juge pas.
Il y a deux, trois gros événements avec les Kirando par an, quoi.
Voilà, exactement. Exactement. Bah écoute, de toute façon, ton livre... ça m'intéresserait aussi de lire, surtout moi.
Bien sûr.
On a parlé beaucoup des hommes. Il doit y avoir peut-être des journalistes de l'écho dont tu parles, que j'ai connu.
Je parle beaucoup de Genestar, je parle des coulisses de l'écho républicain. Hein. Ouais. D'ailleurs, je vais être interviewé par Olivier Bouin dans pas longtemps, parce que comme je l'ai dédicacé à Chartres, il va me faire un bel article sur tout l'écho républicain maintenant, est devenu appartient au groupe de la montagne, et c'est pas mal diffusé, notamment sur Internet. Ils sont très bien diffusé maintenant, donc ça va me donner un petit coup de pouce au niveau des ventes, parce que c'est sympa d'être lu.
Bah tout à fait, bien sûr. Et puis surtout quand il y a quand même aussi des références par rapport, comme je te dis, comme il y a une petite référence aussi locale ou régionale. Mais
bien sûr. Oui, complètement. Je raconte toutes mes aventures à Clairefontaine. C'est vraiment du local, hein. Et il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. Bah des gens comme toi vont se reconnaître. Hein.
Stéphane, est-ce que vous avez une anecdote commune ensemble que vous avez vécu en tant que journaliste? Ça peut arriver parfois. Hein.
Au foot,
à Clairefontaine,
quand on fait des matchs et tout. T'avais souvent une bande de copains et bon, c'est pas mal de souvenirs comme ça que j'ai moi.
Ouais, mais c'est ce qui me faisait, moi, ça me faisait un peu sourire. Effectivement, tout à l'heure, quand Philippe, tu peux t'évoquer André Merel et son jeu un peu dur, parce qu'effectivement, t'étais plutôt le technicien.
Oui, mais j'avais perdu ma condition physique. Alors, quand t'étais encore en bonne condition physique.
Voilà, donc, c'est un petit peu plus jeune.
Oui.
Qu'à l'époque, moi, je jouais aussi encore au club et tout.
Voilà.
J'étais encore 4-5 années derrière. Voilà. Donc, il y a ça. Mais j'ai souvenir de ça, effectivement. C'était un petit peu en rigolant, effectivement, les plaintes de Philippe ou les galères qu'il avait dès qu'il tombait sur des joueurs qui bougeaient un peu.
Ah, bah, c'est sûr.
En lui-même, non, à part les certaines groupes au Roi de Rome, qui doit plus s'appeler comme ça, qui s'appelait du Général de Gaulle, là, en face des nouvelles.
Oui, oui.
Ou des choses comme ça, mais c'est des souvenirs que.
Prendre un verre,
On faisait les matchs, quoi. On faisait les matchs.
Non, puis on travaillait à 300 mètres les uns des autres.
Hein. Bien sûr.
Exactement, quand on se voyait au basket, par exemple, ça c'était toujours sympa.
Mais il y avait une petite concurrence entre nous, c'est ça qui était bien. Ça nous motivait beaucoup, ça.
Ouais,
ça nous obligeait à nous dépasser, c'était bien.
Ah, et on découvrait ça en ouvrant un peu le journal.
Ben oui. On voulait toujours faire mieux que l'autre.
Exactement. Et même si c'est pour dire que, on rendait compte, c'est presque risible, quoi. Le joueur qui est arrivé pour l'équipe de foot de Rambouillet, en régional 3 ou en régional à l'époque, aujourd'hui, ou plus tard après, finalement, c'est très, très dérisoire. Ben, pour nous, ça avait de l'importance.
Bien sûr.
Ah, ben, lui, comment ça se fait qu'il a réussi à avoir ça Par contre, Rondeau, je vous rappelle, Rondeau qui était responsable à Rambouillet, il a eu ça et tout. Non, c'est pour ça que c'est ce que je disais.
C'était très sympa qu'on soit plusieurs, en fait, à faire le même boulot. Ça nous faisait une petite concurrence et une bonne petite émulation, c'était bien.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je dis, c'est le même métier qu'aujourd'hui, mais sans filtre. Sans filtre, bon, en tout cas, parce qu'on n'était peut-être pas dans ces... il y a peut-être, par exemple, si on prend du foot, il y a peut-être une dizaine de journalistes aujourd'hui qui peuvent faire son décrocher, son prendre son téléphone et appeler Didier Deschamps, une
fois, Didier.
Mais c'est tout. Et nous, à l'époque, bah, on était dans ce quota-là pour le sport régional, quoi.
Mais tu sais, je sais pas si Philippe, on a le temps d'en parler, mais j'ai continué à faire du journalisme sur Facebook, et il y a encore pas longtemps, j'ai réussi un scoop, j'ai réussi à interviewer le plus grand mannequin senior du monde, qui a 63 ans, Yazim Enar aussi, qui est l'égérie de Diadermine. Je l'ai eu en direct à Malibu dans son appartement, et elle m'a parlé pendant une heure et demie, et j'ai fait un super portrait dans Facebook. Enfin, compte, grâce aux réseaux sociaux, on peut continuer à exercer notre métier, et elle avait 200 000 followers, et j'ai battu un record, j'ai dû avoir 8 000 vues pour cet article. Donc si tu veux, on peut continuer à faire son métier voilà. grâce aux réseaux sociaux.
Exactement. Mais je suis pas sûr que tu arrives à avoir l'interview de Didier Deschamps en exclu, ou Didier Deschamps ou Brunel.
Non, ça serait quasiment impossible maintenant. Mais d'un autre côté, ça m'intéresserait plus. Donc bon, la page est tournée pour moi.
Voilà, non, mais moi je suis pareil, t'inquiète pas, c'est vraiment un point qu'on a de commun. Mais effectivement, maintenant, on se dit, il y a un changement peut-être dans la hiérarchie des valeurs et tout. Et puis voilà, pour revenir à la presse régionale. Je pense qu'il n'y a pas de fil, c'est vraiment bien, non, c'est vraiment très, très... Moi, personnellement, pour parler juste de la presse régionale, les meilleurs souvenirs de ma carrière de journaliste, c'est toutes les expositions, par exemple, que j'ai pu faire. Les peintres, rencontrer tous les peintres, les
artistes... Oui, c'est très sympa de faire ça. Hey, Stéphane, écris un livre, écris un bouquin.
Il va le faire, il va le faire.
Non, il y a Bernard, t'as le tien. Bernard, je sais qu'il a fait un bouquin comme ça, ou un peu comme ça aussi.
Oui, un petit peu.
Je regrette de ne pas avoir peut-être pu acheter quand j'irai le voir au salon du livre. Mais il y en a qui l'ont fait très très bien. Maintenant, moi, c'est pas. Non, mais c'est vrai, oui, il y a plein d'anecdotes. Moi, il y a plein d'anecdotes. Moi, tu parlais de ton interview. Nous, on en a déjà parlé. Moi, j'ai eu l'occasion, le grand privilège d'interviewer en one-to-one François Mitterrand, par exemple.
Oui. Et oui.
Il est venu au château de Rambouillet. À l'époque, ça nous rajeunit pas.
Bah, ça fait des beaux souvenirs, ça fait des très beaux souvenirs.
Bah, exactement, ouais. Et il n'y a pas de filtre, voilà. Et même si c'était il y a 25 ans ou il y a 30 ans, on ne peut pas faire ça aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire, je pourrais pas dire, bah, tiens, j'ai interviewé aussi en face à face comme ça, je pense que c'est quasiment impossible, même si. Il y a des journalistes qui doivent encore faire en face à face une interview, et si c'est pas TF1, quoi, une grande chaîne avec le président de la République, quoi. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel. Jusqu'où je pense, je n'ai pas lu ton livre, mais je pense que des anecdotes de ce type, bon, pas forcément avec le président. Mais
oui, j'en ai avec Platini, j'en ai avec pas mal de monde.
Mais exactement, ou des cantonnages, parce que tu te souviens, moi.
Oui, cantonnages, on se souvient à Clairefontaine, ouais.
Exactement, et Philippe, c'est bien les deux Philippe, hein, de Philippe, Eric Cantona.
Oui.
Tu t'allais à Clairefontaine, c'était des tables rondes, on était 4-5 journalistes à une table ronde avec un joueur, ou deux, ou même des fois qu'un journaliste, il te parlait, c'était comme si tu étais le rédacteur en chef de l'équipe, quoi.
Absolument.
Il était journaliste des nouvelles, il te parlait de son expérience en Angleterre, et tout, il te regardait droit dans les yeux, là, avec sa voix dure et grave, et te regardait comme si t'étais la personne la plus importante du monde, quoi. C'était exceptionnel. Tout ça était exceptionnel.
Bon, Stéphane, merci en tout cas pour cette intervention. Juste un petit mot, ça va, le site internet, tout va bien?
Ouais, le site internet, nickel. Ouais. Il se développe pas mal. Hein.
Le quotidien du foot, on va rappeler.
Voilà, le quotidien du foot, c'est non, il se développe, ben, on y va doucement, il faut mettre des moyens et tout, mais on est plutôt content sur les derniers résultats de fréquentation du site.
Très bien, merci d'être intervenu
à bientôt,
avec notre ami Philippe Traversant. À très bientôt, hein. On se fait une soirée.
À bientôt, on se rappelle, à bientôt. Allez, bonne journée à vous.
Ok, merci. Voilà. Allez, Philippe, la pub, la musique, et puis ensuite on enchaîne sur la suite de ce bouquin.
Nouveauté à Labassienne de menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbassienne de menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Vous êtes à la recherche d'un terrain, d'un local d'activité, de bureau, d'un entrepôt, d'un local commercial? Vous souhaitez connaître les opportunités et disponibilités actuelles? La bourse locaux de la communauté d'agglomération vous permet de trouver sur l'une des 36 communes du territoire des opportunités immobilières et foncières répondant à vos besoins. En collaboration avec les professionnels de l'immobilier, la bourse locaux est gérée par le service développement économique de Rambouillet Territoire qui a pour mission d'aider les entreprises à s'installer dans les meilleures conditions. Plus d'informations sur www.rt78.fr ou en contactant le service développement économique au 01 30 57 20 61. Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnoult en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin.
RVE, vivez votre région. RVE sur radio-rve.com.
Donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, hey. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, toujours avec notre ami Philippe Traversant. Cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast. Philippe, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce bouquin, on l'a vu, hein, on en a parlé avec Stéphane Desenclos tout à l'heure. Le sport tient une part prépondérante. Ça a été votre première passion dans la vie?
C'est ta première passion? Oui, hein, moi j'ai toujours fait du sport de toute façon. Oui. Donc, mon papa était joueur de foot. Mes oncles étaient joueurs de foot. Mon père a joué dans l'équipe de la marine. Il jouait très très bien. Et si tu veux, dans les plus anciennes photos que je retrouve dans les albums, je suis à 3-4 ans avec un ballon de foot dans les bras. Hein. Donc du coup, de 10 ans à 20 ans, j'ai joué en club avec les Arméniens à Alphenville, qui est ma ville un peu de naissance. Quoi, hein. Et après, j'ai toujours fait du sport. Et j'en parle beaucoup dans le bouquin. J'ai touché à tout. Ski, où j'étais très bon, ski nautique, même
du
le
ski, comment on peut faire du ski dans le coin?
Ah bah j'allais tous les ans au sport d'hiver.
Ouais.
J'allais au sport d'hiver. Oui, oui. Puis j'ai toujours réussi à me débrouiller pour aller faire du sport, quoi. Que ça soit ça ou autre chose. Hein. J'ai vraiment touché à tout. Je me demande quel est le sport que j'ai pas pratiqué. J'ai toujours adoré le sport et ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de m'en sortir.
C'est du code de la vie, quoi. C'est
oui. Puis dans certaines situations très difficiles dans ma vie, le sport m'a beaucoup aidé. J'ai même fini par la marche à pied, la marche nordique, tu vois. En Auvergne, j'ai fait de la marche nordique. Donc je me suis mis à la natation et j'ai fait 12 ans de natation toutes les semaines. Donc j'ai fait de tout, tennis, vraiment, et ça fait partie d'un des piliers de ma vie. Tu vois.
Donc c'est ce qui amène au journalisme sportif. Ça se passe comment, cette entrée dans le milieu du journalisme sportif? Un peu par accident, parce que, bon, comme beaucoup, on est formé sur le tas, il n'y a pas d'école à nos époques.
Moi, j'ai pas fait d'école. Ah, oui. Mais j'avais un bon copain en terminale qui joue au Red Star. Très très bon joueur. Et nous on était très amis. Et du coup tous les deux on s'est dit tiens, pourquoi on n'irait pas taper à la porte de chez Shoot, qui était un magazine d'hebdo du foot en région parisienne, qui avait été monté par les frères Marcoux. Alors les frères Marcoux, ils ont fini à l'AFP et Gérard a fini au Parisien. Et ces mecs là nous ont un peu mis le pied à l'étrier.
Et tout de suite, quand on va frapper donc à la porte de Shoot, tout de suite les portes s'ouvrent, il n'y a pas de problème. À l'époque, c'était comme ça. Hein.
Ils voyaient bien qu'on connaissait le sujet, ouais, déjà. Moi, j'avais une bonne petite plume. Donc, du coup, j'avais ce don. Heureusement, ça m'a un peu sauvé la vie. Je savais écrire.
C'était inné, l'écriture?
C'était inné, hein, vraiment. Ouais, parce que je vois par rapport à mon copain qui était plus fort que moi. Il avait plus de connaissances que moi dans le sport, dans tous les sports, mais j'écrivais beaucoup mieux que lui. Hein. Et ça, on avait 18 ans. On n'avait pas fait d'école, on n'avait pas appris à écrire. Hein. Donc j'avais des très bonnes notes en dissertation, moi. Ouais. Sans rien faire.
Sans beaucoup lire?
Très peu. Je lisais, mais le minimum imposé par l'école. Et j'ai jamais tellement lu dans ma vie, c'est un peu. Je regrette un peu. Mais c'est vrai que j'ai jamais tellement lu. Mais j'ai une facilité d'écriture, c'est évident, quoi. Et en fin de compte, à la fac, j'ai rencontré des gens qui étaient politisés, qui bossaient pour le maire de la ville de Saint-Maur. Et ce monsieur avait son propre journal en kiosque, un hebdo. Et je suis allé taper à sa porte avec mes petits bouts d'articles collés sur un cahier. J'y étais engagé et j'ai eu ma carte de presse. Le 1er mars 1979.
D'accord, ok. Alors après, comment se fait l'entrée à l'Écho?
À l'Écho, par une annonce parue dans Le Monde.
D'accord.
Et c'est ma belle-mère qui l'a lu. Moi, je ne lisais pas Le Monde. Elle m'a dit, recherche un journaliste à l'Écho de sport. J'y suis allé. Et Alain Genestar, qui était le futur patron du journal du dimanche et de Paris Match, eh ben, il m'a engagé.
Oui, donc il y avait beaucoup de monde sur le... À l'époque, beaucoup de monde qui postulait à ce poste.
Tu penses que pour être journaliste sportif, tous les jeunes veulent journaliste sportif.
Bien sûr.
Tu penses que, et même quand j'étais en poste, tous les pigistes attendaient qu'une chose, c'est qu'il y en a un qui se casse la jambe pour nous remplacer. Tout le monde veut faire ça.
Et là, c'est parti pour combien de temps? 10 ans, 15 ans?
À l'Écho, je suis resté 15 ans, 5 ans service de sport, sports à Chartres, et 10 ans en poste à Rambouillet.
Alors, il y a eu justement le sport pendant 5 ans, que le sport, donc les meilleurs souvenirs, c'est naturellement...
Les deux grands souvenirs, c'est le championnat d'Europe de 1984 en France, où la France obtient son premier titre international avec Platini. Je suis allé à Nantes avec la fameuse victoire en ouverture de la Beaujoire, 4 ou 5-0 contre les Belges.
Ouais, contre les Belges, 5-0,
Il faisait un temps magnifique.
Ouais.
Là, c'était la fameuse milieu de terrain avec Tigana Gires qui a éclaté.
Le carré magique.
Voilà. Donc, j'ai fait la finale au Parc des Princes et j'ai fait une page entière en première page dans le journal. Ça a été ma plus grande compétition en France. Et la deuxième très, très grande compétition que j'ai faite, c'est la Coupe du Monde au Mexique en 1986, où je suis allé 5 semaines.
Ah, bien.
Et j'ai fait tous les matchs du Brésil, tous les matchs de l'équipe de France et tous les matchs car demi et finale au stade Aztec avec 100 000 personnes.
Ça, ça doit être un souvenir.
Bah, ça, je suis rentré avec 8 kilos de moins, ouais. Mais ça m'a laissé des souvenirs pour la vie entière. Quoi,
si ouais. Et pourquoi l'écho envoyait du monde?
Personne n'a envoyé quelqu'un.
Alors, c'est parti
tout,
comme ça, non?
Donc, ça, c'est toute une ouais. histoire que oui, je raconte oui. en détail c'est, dans le livre.
C'est ça,
parce qu'aucun journal régional, ni même Ouest France, oui. n'avait un envoyé spécial à la Coupe du Monde. Ça coûtait beaucoup trop cher parce qu'il fallait déjà donner 300 dollars de caution pour demander. Uniquement les accréditations pour remplir un dossier de demande d'accréditation. Et Alain Genestard m'a dit, je veux bien que t'envoyer au Mexique, mais il faut que tu trouves 2000 francs, à l'époque c'est des francs je crois, d'un sponsor. Et par hasard, j'ai rencontré un gars qui était le neveu d'un grand responsable du foot dont j'ai oublié le nom. C'était pas Henri Mim, mais quelqu'un comme ça qui était à la DTN. Et ce gars-là distribuait des fiches sur la Coupe du Monde. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresserait de me sponsoriser? En échange, tous mes articles en une auront marqué Philippe Traversian en direct du Mexique avec les éditions Duguay. C'était le petit-fils de Georges Boulogne.
Ouais, ça c'est bien, il faut rappeler ça quand même aux jeunes journalistes. Comment
et
ça
donc
se passait
moi je suis parti
quoi.
Sur mes vacances. Hein.
Ouais,
non seulement j'ai trouvé un sponsor, mais en plus je suis parti sur mes vacances. Il fallait vraiment être motivé. Hein.
Ouais, mais bon.
Mais si tu veux, j'espérais rentrer à l'équipe derrière avec mon dossier, ce qui aurait pu se faire. Mais je te raconterai, j'ai eu beaucoup de crocs en jambes de la part de mes chers confrères de l'Écho Républicain qui ont totalement massacré tous mes articles. Ce qui fait que sur 30, j'en ai sauvé 2.
Ah ouais.
Uniquement par jalousie des confrères. Bah, tu penses que le chef des sports n'était pas très heureux que je parte à la Coupe du Monde à sa place, et les autres non plus d'ailleurs.
Donc il y a 5 ans au sport, et après c'est l'arrivée en agence, ça se passe comment?
Les 10 ans en agence, c'était merveilleux, parce que comme on l'a dit avec Stéphane tout à l'heure, on avait un potentiel de sport ici extraordinaire. Donc moi, et Philippe Tournon, l'attaché de presse de la fédération, emblématique, puisqu'il y a encore 30 ou 40 ans après.
Il vient juste de partir en retraite, depuis 2018,
tu vois, je ne le savais pas. Il m'a dit un jour, écoute, t'as de la chance quand même, parce que tu es le seul journaliste de la presse locale qui a le même statut que les journalistes de presse nationale, puisque tu es avec l'AFP, l'équipe, l'Express, Le Point, à tous les rassemblements de l'équipe de France, et tu es le seul comme ça, parce que j'habitais Rambouillet et que tout le monde me connaissait très bien, et j'étais le seul à avoir ce statut. Donc si tu veux, j'ai beaucoup de chance, moi, ici. Hein. Mais je me suis fait muter à Rambouillet quand j'ai su que le centre technique du foot allait s'installer avec La Fontaine.
D'accord. Alors, il y a le sport, puis on est obligé de se diversifier quand même un peu quand on arrive en agence locale. Pourquoi?
Oui,
c'est la raison qui l'emporte, ou le sport, ça suffit pas?
Disons que ça occupe pas des journées entières. J'avais déjà 4 colonnes à faire tous les jours, ce qui n'était pas facile.
Il
fallait trouver les sujets. Des fois, je faisais une page, et puis bon, c'était bien de trouver d'autres sujets aussi. Et petit à petit, je me suis fait faire des sujets qui m'intéressaient. Comme l'a dit Stéphane, les expositions, les artistes, et avec Gérard Larcher, c'était c'était merveilleux de travailler avec un mec, avec un monsieur aussi, aussi intelligent et aussi bon dans ses relations presse. C'était un vrai plaisir d'être dans son bureau, parce qu'en 10 minutes, tout était fait. Tu avais un super dossier de presse, il te mâchait le travail, et c'était un régal, quoi. Je me suis régalé à travailler avec des gens comme ça.
Et puis bon, ça dure jusqu'en 97, 98, ouais, et puis ouais. Après il y a le départ de
J'ai négocié mon départ, parce que j'avais vraiment fait le tour de la question. Hein. 15 ans à l'Écho, 10 ans à Rambouillet. D'ailleurs, ça commençait à baisser de niveau, l'actualité devenait de moins en moins intéressante, et j'ai dit, c'est le moment de partir. En plus, je divorçais, c'était lié à ma vie personnelle, et j'ai dit, bon, il est temps que je parte, j'ai fait 15 ans, je suis parti avec un petit pactole. Ça a été très dur au début, et j'ai pu rebondir en région parisienne, notamment avec Pascal Angenot, qui m'a recruté au Paris Saint-Germain, et j'avais d'autres piges en même temps, je suis devenu freelance.
Ouais, donc le sport, il est resté quand même présent dans le quotidien.
Très présent, parce que quand j'ai bossé pour la ville de Gennevilliers, ils m'ont d'abord fait faire les 5 pages de sport. Tu vois. Et après, j'ai fait les pages quartier.
Ouais.
Mais le fait d'avoir plusieurs cartes, plusieurs casquettes, ça m'a permis de faire plein de choses différentes et d'obtenir des... J'ai même travaillé pour une revue immobilière. C'était bien de pouvoir tout faire, parce que ça me donnait des opportunités dans d'autres domaines que le sport.
Aujourd'hui, si on peut conseiller à un jeune journaliste de se diversifier ou plutôt de rester... Parce que c'est vrai que c'est grisant le domaine du sport, quand même, faut le dire. Hein. En étant, c'est grisant.
C'est bien de se diversifier si t'aimes le sport, mais c'est bien aussi d'être très très fort dans un domaine, parce que maintenant, il y a beaucoup de magazines, et quand t'es très très pointu dans un domaine, c'est quand même bien, parce que tu peux travailler. T'as vu le nombre de magazines qu'il y a dans les kiosques maintenant. Beaucoup, c'est des magazines spécialisés, chacun dans son domaine. Et c'est bien aussi d'être très bon dans un domaine.
Et il y a aussi la presse internet maintenant, ce qui n'était pas le cas à l'époque.
Oui, mais j'ai commencé un peu au Paris Saint-Germain. Ils avaient un site internet. Donc j'ai commencé comme ça. Mais je ne m'y suis jamais vraiment mis, parce que ce n'était pas mon domaine, ce n'est pas ma génération.
Alors, donc, dans ce bouquin, il y a beaucoup de sport. Il y a aussi un peu de vie privée, hein. Il faut dire que, allez, entre nous, il faut le dire, ça bouffe quand même, hein, le domaine du journalisme sportif, ça bouffe une grosse partie de la vie privée, il faut le dire.
Bah, hein, si j'ai divorcé, c'est pas à cause de ça. Hein. J'étais jamais là le week-end, j'étais jamais là le samedi soir, ni le dimanche après-midi. Bon, bah, c'est vrai, pour la vie de famille, c'est pas facile. Et puis, ce livre, je l'ai fait d'abord parce que moi, je suis devenu biographe depuis 5 ans. Hein, donc, j'écris l'histoire de vie des gens. Des gens simples, hein. Toi et moi, hein. Mm-hmm. Et en fin de compte, j'ai dit, bon, bah, je vais quand même commencer par moi-même. Je vais raconter l'histoire de ma vie, de ma famille d'origine arménienne pour mes enfants. Au départ, c'était que pour tous les deux. Et il y a eu cette opportunité avec un éditeur. Mais au départ, c'était pas fait pour ça. Donc, si tu veux, je raconte toute ma vie. L'histoire de mes grands-parents, de mes parents. J'ai vécu quand même beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, avec le divorce de mes parents, des aventures vraiment personnelles très, très importantes. Donc, et j'ai souffert d'agoraphobie toute ma vie.
Alors ça, c'est quand même paradoxal. On est joint avec le sportif, on voit du monde et on souffre de ce mal.
Chaque fois que j'allais au Parc des Princes, j'avais des crises d'angoisse terribles. Personne ne s'en rendait compte, mais moi, j'étais pas bien. Oui. Donc, de temps en temps, je prenais un petit cachet pour me calmer, un anxiolytique, et j'ai géré ça pendant des années, tant bien que mal. J'ai fait une longue psychanalyse de 7 ans, une psychothérapie de 5 ans, j'ai beaucoup fréquenté les psychiatres, j'ai pris beaucoup d'anxiolytiques, et là, je me suis mis au yoga, j'ai cherché des alternatives, mais j'aurais quand même souffert de ce mal, mais comme je pense que j'ai eu un certain courage d'affronter les situations, parce que pour moi, ça paraissait même presque impossible d'aller au Mexique, et j'ai suivi une thérapie avec le plus grand spécialiste des de l'époque, qui m'a fait faire un stage pour la première émission de télé-réalité sur Canal+, sur les phobies en avion.
Oui, parce que quand on côtoie des sportifs, qu'il y a une foule de journalistes ou de supporters derrière,
j'étais pas bien dans les stades.
Si on veut poser ces questions...
J'étais pas bien dans les stades où il y avait de la foule, j'étais pas bien dans les grands déserts, dans les espaces où il n'y a rien, tu vois. Je suis pas à l'aise dans ces endroits-là. J'étais gêné par des tas de choses. J'avais même des phobies sociales à un moment donné. J'étais claustrophobe. J'ai eu un peu toutes les phobies, donc j'ai vraiment passé des moments très 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 dur, mais à force de ténacité et comme j'avais vraiment cette volonté de réussir dans ce métier, je me suis accroché. Je me suis lancé des défis, parce que partir à la Coupe du Monde au Mexique, au départ c'était infaisable pour moi, parce qu'il fallait prendre l'avion et il fallait traverser l'Atlantique, chose qui me paraissait impossible.
Aujourd'hui, t'aimerais être encore dans ce milieu, refaire ce que t'as fait, ce serait plus difficile, plus compliqué?
Oh, beaucoup plus.
Voilà, je pars de la Coupe du Monde, je me prends un sponsor.
Il faut que tout
ça
monde,
paraît difficile. Quoi.
Pratiquement tout le monde fait des écoles maintenant.
Ouais, c'est formaté. Ouais.
C'est un autre monde.
C'est formaté.
Attention. Le relationnel, la plume et le talent de journaliste, ça reste pour la vie. Je veux dire, aujourd'hui encore, d'une autre manière, je ferais peut-être Internet. Je ferais peut-être de la télé ou de la radio.
Du multimédia, quoi, les trois.
Je vois pas pourquoi, ayant ces qualités de base, je pourrais pas continuer à faire ce métier. Il y a pas de raison. La preuve, je le fais sur Facebook.
Absolument. Allez, j'avais promis qu'on retrouverait notre ami Fabien au téléphone, exceptionnellement ce matin. Fabien, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors comment ça va d'abord, Fabien?
Bah, ça va bien, et en plus c'est un dimanche matin arménien, parce que moi-même d'origine arménienne.
Ah bien. D'accord, ok, bah c'est très bien. Alors, Fabien, d'abord un petit mot sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Open de France, victoire d'un concurrent belge.
Oui, alors d'un belge, mais d'un franco-belge.
Voilà, c'est ça.
Voilà, Nicolas Colsart est quelque part un peu du sang français, puisque depuis de très nombreuses années, voilà, il côtoie le contingent de joueurs français qui est sur le circuit européen, dont il est très proche. Et ben, ça consacre un joueur talentueux, un joueur qui a eu une traversée du désert pendant un paquet d'années, après une Ryder Cup aux US où il avait largement brillé et contribué à la victoire et à la remontée européenne et donc à la victoire en battant Tiger Woods. Voilà, bah écoutez, c'est un réel plaisir. C'était une très belle édition. Donc ça a évidemment fait couler beaucoup d'encre puisque la date avait été déplacée. Il y avait eu des soucis. Il y a d'ailleurs toujours des soucis là entre la fédération et le circuit européen et Chris Paisley, son directeur général. Mais il faut le noter, c'était une belle édition. Le temps a été mitigé, mais plutôt correct. Voilà, ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, le public n'a pas suivi en nombre et en masse. Mais néanmoins, très belle édition, très beau vainqueur, émouvant. Donc non, positif.
Bon, bah, tant mieux, parce que je crois me rappeler que dans notre rendez-vous de fin septembre, vous étiez assez sceptique, hein, notamment pour la date qui avait été proposée à l'époque.
Oui, effectivement, puisque historiquement, ça a toujours été
au tout début de
l'été, voilà, début juillet. Évidemment, c'est quand même plus souvent propice à de la chaleur, à du soleil, et donc à un engouement, je dirais, général plus important. C'était un risque, mais il faut le dire, l'édition a été très belle, le parcours encore une fois fait partie des plus beaux parcours européens voire mondiaux, parce que c'est un vrai challenge. Il avait été un petit peu simplifié cette année, donc les scores ont été un petit peu plus bas, mais ça reste c'est un parcours qui est génial parce que on peut avoir plein de surprises. Le tournoi n'est jamais joué tant qu'on n'a pas mis sa balle dans le dernier trou le dernier jour, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein, parce qu'il y avait un joueur danois qui était repassé en tête et qui a malheureusement un petit peu bricolé sur le trou numéro 17 et a laissé a donné la victoire à Nicolas Colsart, quand bien même il est allé la chercher tout seul depuis le jeudi. Mais non, un parcours fantastique, une belle édition, bien qu'effectivement, on préférait une date plus sympathique pour attirer plus de monde.
Oui, donc, mais c'est une date qui va rester maintenant au mois d'octobre.
Voilà, mon Dieu, vaste sujet. Voilà, c'est toujours en pourparler. C'est très secret. On entend des bruits de couloir. Et à l'heure d'aujourd'hui, je serais bien incapable de vous donner même pas une date, mais le mois. Où se déroulerait l'Open de France l'année prochaine. Mais je pense que la fédération est une belle fédération et évidemment elle défend ses intérêts, et j'ose espérer qu'on aura une belle date l'année prochaine.
Oui, ils vont pas le faire au mois de décembre ou au mois de janvier quand même, rassurez-vous.
C'est sûr que non, puisque le circuit européen s'exporte dans les pays beaucoup plus chauds comme les Émirats ou l'Océanie. Donc là, pour le coup, il n'y a aucun risque.
Très bien. Alors, autre rendez-vous important en ce mois d'octobre, eh ben, ça se passe au golf de Jardy, hein, chez notre ami Régis Viateur, puisque le 30 octobre, c'est-à-dire donc mercredi, il y aura à l'initiative du CROSIF, hein, Comité Régional Olympique et Sportif d'Île-de-France, présidé par Evelyne Sayegui, qui avait déjà organisé donc cette semaine les journées du sport féminin. Eh bien, il y aura une belle journée consacrée au golf qui aura pour but de développer la vie associative et les structures d'accueil du sport fédéral, inciter à une pratique physique régulière, promouvoir les activités du golf et favoriser par la pratique sportive les rencontres, les échanges et les liens sociaux. Ça, c'est une bonne initiative, Fabien.
Bah, c'est formidable, et je pense qu'il faut le noter. Il faut noter l'investissement total et le Régis est toujours dans l'idée de développement, toujours dans l'idée de faire venir un maximum et une diversité au golf du Rajardi, hein, avec le département des Hauts-de-Seine. Donc il faut absolument noter le dynamisme et la diversité dans laquelle Régis s'inscrit pour faire venir un maximum de monde et faire connaître ce sport formidable qui est le golf. Et effectivement, ce rendez-vous de fin d'année est un rendez-vous extrêmement important. Et c'est à noter, c'est la première fois le CROSIF vient sur un golf. Et nous espérons nous inscrire dans la continuité, et que l'année prochaine, l'événement se renouvelle.
Oui, ça s'inscrit effectivement pour la promotion du sport pour toutes et tous, hein. Et ça sera surtout pour des jeunes âgés, des adolescents, garçons et féminines, et surtout donc qui vont entre 11 et 17 ans. Et il y aura au cours de cette journée 200 jeunes qui seront issus des zones prioritaires de la ville et qui seront accueillis pour découvrir justement le golf dans toute sa pratique, avec trois zones d'initiation, le petit jeu, le practice et le parcours.
Ouais, c'est formidable. Je dirais, il n'y a pas grand chose à ajouter, si ce n'est que il faut que ce genre d'initiative se multiplie. Que l'image du golf est Philippe, on le fait une fois grâce à vous, une fois par mois sur Radio RMV, c'est de vraiment montrer que l'image du golf n'est pas celle que l'on que l'on croit ou qu'on l'ait cru. C'est absolument ouvert à tous. On accueille tout le monde. C'est un sport où tout le monde, et y compris les jeunes, voilà, peuvent se prendre du plaisir, découvrir quelque chose de peut-être un peu différent, mais en tout cas formidable. Donc, initiative topissime pour. Mais il faut que ça se multiplie. Il faut que vraiment, d'une manière générale, tous les acteurs du golf français et Régis et nous-mêmes, hein, chez YouGolf, nous le faisons. Mais il y en a aussi plein d'autres. Et c'est à noter, c'est à développer et à renouveler.
Oui, réception officielle à partir de 11h30. Ça sera donc mercredi 30 octobre. Et ça sera à Vaucresson, dans le département des Hauts-de-Seine. Merci en tout cas, Fabien. Alors, je sais que vous êtes d'origine arménienne. Bah, notre confrère qui a écrit un bouquin, l'est aussi. Donc, peut-être un petit mot entre vous.
Inch PCS ?
Ah non, je suis navré, moi je connais Kokis.
Ah, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Tu sais, je connais pas beaucoup plus de mots que toi, mais disons que j'en maîtrise une vingtaine, quoi.
Ah non, malheureusement non. Mais ce qui est très drôle, c'est que mon papa, donc, est issu du monde du football, hein,
oui,
puisque c'est un ancien joueur à l'époque, c'était la division 1, donc voilà, il a joué à Sochaux, à Saint-Étienne, et a fini sa carrière à Nantes.
Ah oui.
Voilà, et c'est toujours. Mais ce que j'ai aimé, c'est que voilà, les Arméniens, c'est des gens enthousiastes, et on l'a senti. C'était un plaisir de vous écouter parce que je sentais cette passion et cet enthousiasme en vous écoutant.
Ah, merci beaucoup.
Voilà, et donc c'est toujours absolument plaisant.
Ah, ravi de vous connaître aussi.
Également, et vive l'Arménie. Hein.
Ben, bien sûr. Merci Fabien.
Et vive le sport. Et oui, vive, voilà. le sport.
D'accord. Voilà. Et rendez-vous donc fin novembre, ok?
Exactement, allez, merci beaucoup, merci. Philippe.
Au revoir.
Bon dimanche à tous.
Allez,
au revoir.
Salut Fabien, la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale.
Envie de nager ou de se détendre? La piscine des Molières aux Essert-le-Roi offre des espaces aquatiques pour petits et grands. Le bassin de 25 mètres, dont la toiture permet une ouverture intégrale, le bassin ludique avec canon à eau et contre-courant et la pataugeoire. Il est aussi possible de profiter du grand jardin pour les bains de soleil. D'autres activités sont à découvrir. L'espace forme avec vélo elliptique, rameur, sauna, hammam, l'aquagym et l'aquabike. Plus d'infos sur www.rt78.fr.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi, et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi. RVE 103.7.
Through the city.
Pas que nous sommes revenus à l'heure d'hiver. Philippe, merci d'avoir été notre invité. Le bouquin, on peut d'abord savoir le dire que ce sont les éditions Le Lys Bleu. Hein.
Tout à fait. Et donc, on peut l'avoir chez eux en tapant Le Lys Bleu, mais également aussi sur Dilicom, le site Dilicom. D-I-L-I-C-O-M.
D'accord. Alors, on pourra l'acheter ou se le faire dédicacer ou à quel endroit dans les prochaines semaines
Au bon moment, il y aura deux rendez-vous. Ça sera à la grande braderie chaîne organisée par la communauté arménienne au Plessis-Robinson. Alors là, c'est une grosse manifestation. Il y aura au moins une vingtaine d'auteurs. Et encore plus le lendemain, le dimanche 17 novembre, à la salle Patnaut à Rambouillet, où là, on a 80 auteurs, donc Evelyne Dress, mon copain Bernard Delatte des Nouvelles, qui présente son bouquin ou ses bouquins. Et donc, ce jour-là, ça sera aussi journée dédicace avec le maire, et je pense que Gérard Larcher va venir.
Oui, et puis un petit salut à Bernard, je crois que savoir vous former un beau duo en baby-foot. Hein.
on participe à beaucoup d'événements avec le Lions Club de Rambouillet, et c'est un peu Bernard qui m'a intronisé dans ce joli club, et on fait beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'allais à la braderie, demain, il y aura le grand gala du Lions, et on fait beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on s'est pas mal débrouillé au baby, on a gagné 2 matchs sur 14, il y avait le champion d'Europe. Hein.
Oui, vous êtes complémentaire, un très bon en défense, l'autre très
Bernard,
bon
c'est un défenseur, moi j'ai un attaquant, c'était parfait.
D'accord, très bien. Merci Philippe. Bon dimanche.
Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt.
Voilà. Et puis la semaine prochaine, ça sera Tribune Rugby, puisque on sera au lendemain de la finale du mondial de rugby. Hein. Ça n'a pas très bien porté chance à l'équipe de France la semaine dernière, mais enfin c'est pas grave. Les Anglais ont gagné hier et on attend le résultat du match entre l'Afrique du Sud et le Pays de Galles tout à l'heure pour savoir quelle sera l'affiche de cette finale. Bon dimanche à toutes et à tous et rendez-vous donc la semaine prochaine pour Tribune Rugby 10h-11h. Merci.
RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. La confiance n'est plus de mise à Rouen. Environ 500 personnes ont encore manifesté hier et se sont rassemblées samedi après-midi devant le palais de justice de la préfecture de Seine-Maritime pour exprimer leur inquiétude face aux conséquences possibles de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol dans cette ville il y a maintenant un mois. Notre passé sans Lubrizol, notre avenir sans le cancer, ou encore avec Lubrizol on meurt un peu mais pas trop, pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les participants réunis à l'appel d'un collectif unitaire regroupant associations, syndicats et partis politiques. Des élus d'Europe Écologie Les Verts et du PS étaient également présents. Il y a